On roule dans la nuit et on traverse la campagne, on traverse des forêts. De temps en temps, si on baisse la vitre de la voiture, on entend peut-être des grenouilles, peut-être des crapauds. On ne sait pas très bien, c'est mystérieux, c'est la nuit, c'est beau comme la nuit. Et on roule quelque part à travers le Bangladesh. Et là, on vient d'une situation assez marrante, enfin un peu inquiétante aussi. On est allé rencontrer une grande chanteuse, quand vous fera entendre la voix et que vous verrez, mais alors, dans la radio, elle est belle comme tout. Très grande artiste qui chante ce soir pour l'anniversaire dans un temple qui est en hommage à un intello un peu hindou, un peu musulman. Et il y avait beaucoup de tensions parce qu'il faut pas oublier quand même qu'au Bangladesh, il y a une activité politique très très chaude. Et donc il y avait beaucoup de tensions. Il y a eu des rumeurs d'attentats terroristes, etc. Alors on ne sait pas la part de vérité, la part d'abus, la part de terreur, évidemment, parce que vous vous souvenez que l'été dernier, il y a eu une série d'attentats assez terrifiantes à travers le Bangladesh, et ce pays vit sous le traumatisme encore de cette série d'attentats. Alors on est reparti de là et on roule donc dans la nuit et on traverse des villages et on traverse des villages avec des marchands de fruits, des marchands de tout. Et tout le monde bosse encore à cette heure-là et ça rappelle, c'est comme un souk. Et ça tombe bien parce que aujourd'hui on va à Sanaa au Yémen, une ville que j'adore particulièrement. Je sais que vous l'aimez aussi. À l'époque, on avait eu beaucoup d'écho. On avait réussi à, pour une fois, à vous transmettre l'admiration qu'on avait pour cette ville et notamment pour le souk. Alors voilà, ça se ressemble pas mal, hein. Un souk, il n'y a rien de plus organisé qu'un souk, il n'y a rien de moins bazar qu'un bazar. Mais simplement, nous, avec nos yeux toujours suffisants et toujours occidentaux, c'est le bazar, quoi. Pas du tout, évidemment. C'est d'autres façons de communiquer, de commercer et de socialiser, de sociabiliser. Donc voilà, c'est la balade d'aujourd'hui. J'ai pas pu écouter les messages parce qu'on bouge beaucoup. Les lignes sont très très mauvaises. J'ai pu en écouter quelques-uns. Et ben je vous remercie pour les messages, surtout ceux concernant cette auditrice particulièrement pas sympa du tout qu'elle laisse un message. Mais après tout, c'est la vie. On a toutes sortes d'auditeurs et on en est absolument ravis. Allez hop, en route pour le Yémen, en route pour le souk de Sanaa, à la rencontre du cher de la nuit.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Zoé Varié. Là-bas, si j'y suis, au Yémen.
I'm going to go to the hospital. Donc l'entrée du souk, c'est Bab el-Yémen, la porte du Yémen. En fait, Yémen veut dire sud. Et c'est pourquoi on appelle Yémen le pays, parce que c'était au sud de la Mecque. Et là le Yémen, c'est le sud, c'est la route de Taïz, ensuite Aden, etc. Donc c'est la porte d'entrée de la ville et du souk. Et ça, c'était véritablement l'entrée où devaient passer tous les étrangers lorsqu'ils entraient dans la ville. Et tout autour de ces remparts, que l'on voit qui encerclent la vieille ville, il n'y avait que des champs jusqu'en 1962. Jusqu'en 1962 et même jusqu'en 1970, jusqu'à la fin des guerres civiles entre républicains et royalistes.
Jusqu'à 1970, la ville s'est limitée aux remparts.
Aux remparts, oui.
Bab el-Yémen, c'est la porte de Sana'a. C'est ici qu'on entre dans les souks d'un des plus vieux marchés du monde arabe. Et c'est là qu'on va se laisser étourdir aujourd'hui, se perdre, s'épuiser, flotter dans les bigarrures des ruelles, dans l'effervescence des odeurs, des bruits, des cris, des éclats de vie, des désirs cachés ou montrés au bord d'un voile, un regard bordé de coltas, de safran, de coriandre, de poivre, de cardamome, de myrrhe, d'encens, de dattes confites, d'écorce, de café grillé, le plaisir de dire ces mots, de voir. Il n'y a pas à Sana'a, le soir, de théâtre. Et il y a bien peu de cinéma dans cette ville. Et pourquoi? Eh bien parce que tout est là, toute la comédie, tous les comédiens sont là, au cœur de cette ville, une comédie qui se joue chaque jour depuis quelques siècles, la même trame, le même drame, mais sait-on jamais? Bien sûr, de Port-Louis à Delhi, d'Istanbul à Port-au-Prince, du Caire à Téhéran, partout, nous avons commencé par le marché, par le bazar, le mercado. Il faut commencer par là. On engloutit des images, des tourbillons de saveurs, des puanteurs suaves, des bidoches, des safrans, des charmes, des ventres, sans bien comprendre, comme une langue nouvelle qu'on écoute d'abord avant d'apprendre l'alphabet. On se laisse bercer, saouler, on digérera plus tard. Jadis, les Halles de Paris disaient tout, faisaient tout sentir par tous les sens, non seulement sur Paris, mais sur toute la France. Souk de Sana'a, marché de Sana'a, 1800 boutiques et échoppes. En fait, quand on dit souk, il s'agit des différents marchés dans ce marché. Celui des forgerons, des grainetiers, des ferblantiers, des tailleurs. Il y en a comme ça une quarantaine, 50 000 à 60 000 personnes par jour passent dans ces marchés, ce marché de Sana'a. Alors il y a bien sûr l'échange, le marchandage, la négociation qui est toujours basée ici sur des références à l'islam, des citations du Coran ou des arguments fleuris du genre « Je n'ai que ta conscience pour allier » au moment où on marchande. Il y a encore de nombreux artisans, on les verra, dans ce souk, de moins en moins nombreux au profit des commerçants. Et puis il y a, et c'est le vrai cœur battant, c'est le vrai cœur palpitant dans ce brassage, toutes les composantes sociales qui se côtoient, qui se comparent, qui se toisent, se mêlent, se mélangent, se jettent, se rejettent et se distinguent. Tout ça dans un même espace, dans la même durée, jusqu'à la nuit, jusqu'à ce que le cher de la nuit, le vrai chef du marché, reprenne sa ronde immémoriale. Un vrai bouillon de culture. J'allais céder au jeu de mots et dire un brouillon. Eh bien, c'est tout sauf un brouillon. Un bazar n'est pas le bazar. C'est organisé, codé, minutieusement réglé. C'est une horlogerie fine, ancienne, pratiquement inchangée depuis des siècles. Et pour nous faire comprendre un peu tout ça, on emmène avec nous, ou plutôt on se laisse guider par un fin observateur, Franck Mermier, oui, presque un homonyme, qui à Sanaa travaille au sein du centre d'études de Yéménite et qui est un très fin observateur, je le répète, qui depuis longtemps vit dans ce souk, écrit sur ce souk et connaît ce souk comme sa poche. Rigueur de l'organisation, mais aussi improvisation quotidienne. L'idée que tout est possible persiste. L'idée du jeu persiste. Le hasard est attendu dans ces ruelles, creusées justement dans l'inattendu, comme disait Alain Jouffroy. Alors on va se perdre dans ces turpitudes et ces maléfices, et avec l'idée tout de même que, j'espère bien, nous ne comprendrons pas tout. Jacques Lyonnais disait, pour pénétrer le cœur d'une ville, pour en saisir les plus subtils secrets, il faut agir avec la plus infinie tendresse et aussi une patience parfois désespérante. Il faut la frôler sans être sournois, la caresser sans trop d'arrière-pensée, et ceci pendant des siècles.
C'est le souk des vêtements usagés qui viennent de Tokyo, du Japon, d'Hong Kong, etc. En fait, il y a beaucoup d'animation à cause du Ramadan, parce que c'est la préparation du Ramadan, donc les gens viennent au souk pour acheter les vêtements qu'ils vont offrir comme cadeau, surtout aux femmes.
Montrez-vous thé. Ah. Et là, il y a un chameau.
Chameau aveugle.
Aveugle. Qui tourne et qui fait tourner ce pressoir à ville.
Pourquoi on tousse ? Ça doit être le sésame.
Ou la moutarde, peut-être.
C'est hallucinant quand même, hein, ce chameau qui tourne dans la pénombre. Évidemment, ça date de quand ce truc?
C'est la nuit des temps. Ça, les pressoirs d'huile dans le souk de Sanaa sont attestés depuis le début de la période islamique.
Un chameau qui tourne depuis le 7e siècle dans le souk à l'entrée du marché de Sanaa. On est rentré par la porte de Bab el Yamen. La seule porte qui reste encore de la ville, l'ancienne ville de Sanaa, dont on reconstruit les remparts de terre de Pisée. Et alors, il y a une légende qui veut que cette porte, jadis, avait un charme, enfin un pouvoir, qui était que si un étranger voulait entrer dans la ville avec de mauvaises intentions, eh bien, en passant la porte, il était immédiatement foudroyé. Ça correspond un peu à nos portiques, hein, quand on entre dans l'aéroport. C'est un peu le même système. Mais est-ce que ça marche pas encore un peu, cette histoire? Puisque il y a une sorte de... C'est curieux, c'est inexplicable. Pourquoi, à l'intérieur de cette ville, on se sent si bien? Tu crois que la ville avait... on lui avait donné un caractère de sanctuaire, jadis, qui doit persister encore aujourd'hui, face à l'entourage de ces tribus qui, évidemment, convoitaient cette merveille. Alors, on avait imaginé et décidé qu'elle serait sainte, qu'elle aurait un caractère sacré, et que la paix, la sérénité y régnerait. Évidemment qu'au cours de l'histoire, comme toute loi et comme toute chose sacrée, ça a été violé et subverti, mais il y a quelque chose de particulier qui est dans cette ville. Alors, bien sûr, c'est la mémoire, c'est l'immémorialité de cette ville. On nous affirme que rien n'a changé dans ce pays et dans cette ville en particulier depuis très longtemps, que cette ville, et ce serait sa grâce, a été tenue, s'est trouvée tenue à l'écart des grands boulevards de la modernité. C'est peut-être pas aussi vrai qu'on voudrait bien le dire et le croire. En tout cas, voilà, on va se balader dans ce souk avec Franck Mermier, je vous l'ai dit, qui connaît bien cet endroit pour y avoir longtemps observé chaque élément en chercheur, en ethnologue qu'il est, mais qui sait aussi redonner le charme de l'inattendu, le goût de la surprise et du premier moment.
Oui, les deux voiles de la femme de Sanaa.
Celui des femmes de Sanaa, c'est un tissu noir avec ce dessin rouge, hein, un cercle, une succession de cercles rouges.
Rouge, blanc, noir.
Rouge, blanc, noir, c'est ça. Oh, on en voit beaucoup surtout des femmes âgées.
Quand les jeunes préfèrent le voile moderne, si on peut dire, le voile synthétique noir.
Il y a des odeurs incroyables.
Hein. Ah, c'est l'écorce de café.
Ah, voilà, c'est ça,
avec quoi le café.
Ça, c'est quoi, des clous de girofle?
Ça, des clous de girofle, du sésame, du coriandre, du thym.
L'encens.
Ça, c'est vraiment la musique de la région de Sanaa. C'est la musique tribale, disons, qui est surtout employée dans les réunions tribales et les musiques de danse. Notamment dans les mariages, c'est surtout des musiques de danse.
Oh la foule!
Alarago!
Attention,
je plane. Ça, c'est de l'encens, par contre.
Ah, voilà, ça, l'encens.
Allô, Mira.
Mira.
Et tous les hommes portent la chambilla, hein, autour de nous. Cette espèce d'appendice, là, le poignard qui leur sort littéralement du bas-ventre, là, qui est... Tout le monde le porte.
Allô, Mira.
Ça, c'est un des plus vieux souks... du monde arabe, hein.
8e, 9e siècle.
Oui, oui. Disons que ça existait certainement avant, mais enfin, les attestations de textes datent de cette période. La première inscription sud-arabique, c'est-à-dire de la langue avant l'arabe, quoi, fait dater Sanaa du 1er siècle de notre ère. Et c'était la seconde capitale, avec Mareb, du royaume de Saba. Certainement une des plus vieilles villes du monde arabe... qui a gardé beaucoup de ses traits très anciens, notamment les maisons tours qu'on retrouve aussi dans le Yémen pré-islamique qui existe ici à Sanaa.
C'est extraordinaire quand même ce qui frappe. Oui, ça vous frappe peut-être plus, mais c'est quand même les gambillas, la jambilla.
La jambilla, c'est véritablement fait partie intégrante du costume masculin. Et vous voyez, là, la plupart des hommes le portent au milieu de la ceinture. C'est pour, les distinguer de ceux qui les portent sur la droite de, à droite de la ceinture. Ceux qui les portent à droite de la ceinture sont généralement des descendants du prophète ou des juges religieux. Et ceux qui le portent au centre sont des hommes de tribu ou des citadins qui se disent d'origine tribale. Donc ça a quand même un lien avec la hiérarchie sociale
et bien sûr
avec la viralité, etc. Il y avait des groupes sociaux comme les juifs, les pratiquants de métiers villes, c'est-à-dire les cordonniers, les tailleurs,
les métiers villes,
qui eux ne portaient pas de jambes. Hein.
Ouais.
Donc c'est véritablement un attribut social important qui distingue ceux qui ont une origine, qu'elle soit une origine tribale ou une origine du type descendant du prophète, de ceux qui n'en ont pas. Donc c'était vraiment un marqueur de hiérarchie sociale avant la révolution de 62. On voit des poignards dans la statuaire sud-arabique avant l'islam.
C'est une société sans rupture, quoi, avec une continuité extraordinaire. Non,
il y a des permanences très fortes, notamment en ce qui concerne la structure sociale, évidemment, l'architecture. Les deux étant liés, puisque l'architecture reflète aussi l'organisation de la famille, l'organisation aussi des groupes sociaux, etc.
Marché de Sanaa, tout de suite on est ramené à l'architecture au Yémen. Et c'est vrai que quand on commence à savoir lire un petit peu la ville de Sanaa, on distingue la ville arabe, on distingue les quartiers turcs. On sait que les Ottomans, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, ont dominé la partie nord du Yémen. Et puis aussi les quartiers juifs, les maisons basses, les quartiers juifs dans la ville. Donc c'est tout un brassage, évidemment, qui s'est produit dans ce marché, qui continue évidemment de se produire, avec une influence aussi de l'Inde, puisque il y a l'océan Indien qui porte bien son nom, les côtes du Yémen étant largement ouvertes sur l'océan Indien et au loin sur l'Inde, puisque Aden est un port, mais Sanaa est une ville qui était à la croisée des lignes, des caravanes, des itinéraires des caravanes, une croisée du commerce et des marchandises qui étaient transportées depuis le sous-continent.
Beaucoup de choses vous voyez dans le souk, notamment là on est un peu dans le souk des tissus, viennent souvent d'Asie, et d'Inde particulièrement.
Une influence de l'Inde ?
Une grande influence de l'Inde, oui.
Sur la côte, évidemment, vers
Aden. Sur la côte de l'océan Indien, même sur la côte de la mer Rouge. Il y avait aussi, jusqu'au début du XXe siècle, il y avait aussi des marchands banians qui venaient du Gujarat et qui étaient même installés dans le souk et qui faisaient les intermédiaires du commerce entre le Yémen et l'Inde. Et on a dans un texte du XVIIIe siècle sur le souk, sur l'organisation du souk, la mention des juifs et des banians qui devaient payer des taxes particulières parce que ils pouvaient pas garder les portes de la ville ou garder les remparts de la ville.
Là, vous parlez des juifs, il n'y en a plus du tout ici.
À Sanaa, il n'y en a plus depuis 48.
C'est ça, depuis l'opération tapis volant.
Ouais. Il n'y en a plus et ils étaient très importants. Donc, ils habitaient dans un quartier séparé qu'on appelle le Kahal Yehoud. Et ils étaient très importants pour tout ce qui concerne l'artisanat et le commerce. Notamment l'artisanat d'orfèvrerie, bien sûr, mais aussi la menuiserie, la forge, les tanneries. Et ils travaillaient aussi avec les musulmans, côte à côte avec les musulmans, dans les souks de Sanaa.
Ouais, ça cohabitait sans trop de tension. Il y a eu des moments de répression.
Il y a eu quelques imams qui étaient particulièrement virulents à l'encontre des juifs, et notamment l'imam Moutawakil qui en 1680 a expulsé les juifs de Sanaa pour les envoyer sur la côte de la mer Rouge pendant plusieurs années. Mais les musulmans à Sanaa se sont plaints de ce qu'il n'y avait plus d'artisanat et de commerce dans la ville. Enfin, disons que ça s'était réduit énormément, et ils ont demandé à ce que les juifs reviennent. Les juifs sont revenus et ils ont construit leur quartier séparé à ce moment-là.
Mais, ghetto.
Disons, oui, ghetto dans le sens, oui, vénitien. Mais autrefois, ils habitaient dans les quartiers avec les musulmans, sans aucune distinction. Et jusqu'en 48, et jusqu'à maintenant d'ailleurs, parce qu'il reste des juifs, ils ont leur synagogue Ils ont la liberté de culte, ils peuvent enseigner la Torah.
On trouve encore des synagogues ici ?
On trouve des synagogues maintenant dans le nord du Yémen. Enfin, disons que c'est des synagogues, on pourrait dire, familiales, puisqu'il y a très peu de juifs qui restent. Mais autrefois, il y avait des synagogues, même à Sanaa.
Alors on dit qu'au moment de l'opération tapis volant, on a essayé de faire apprendre la technique et l'art des... Ah, on monte là. L'art de la joaillerie, l'orfèvrerie.
L'imam Yahya a demandé aux juifs d'enseigner leur technique, et notamment l'orfèvrerie, aux musulmans qui allaient prendre leur suite, notamment dans le métier de l'orfèvrerie, dans le souk de Sanaa. Alors il y en a certains qui ont appris donc des mains des juifs leur travail, quoi, leur métier. Mais ça concernait surtout l'orfèvrerie, parce que pour ce qui concerne la menuiserie, il y avait aussi beaucoup d'artisans musulmans.
Marché de Sanaa, et c'est là qu'on trouve ce mot. On dit toujours, qu'est-ce que c'est, caravansérail? Qu'est-ce que c'est un caravansérail? Ben, c'est tout simplement un endroit où jadis on entreposait les marchandises. Les caravanes amenaient les marchandises à dos de chameau, hein, les images de contes, là on peut vraiment y penser, amenaient les marchandises jusque dans ces caravansérails où elles étaient entreposées. Et très souvent, les caravansérails servaient aussi d'hôtels, de foundouk, comme on dit ici. On dormait avec parmi les marchandises, les animaux, et c'était des lieux évidemment de rencontres, de fêtes. Et ça a beaucoup servi évidemment de décor et de circonstances aux contes, aux romans, à toute une poésie arabe, entre autres. Et là, on monte justement sur un de ces derniers caravansérails. Comme il n'y a plus de rôle et d'emploi pour ces bâtiments-là, la plupart s'écroulent. Mais là, en voilà un qui a été restauré. Et on monte sur le toit de ce caravansérail pour contempler la ville de Sanaa.
Salam.
Salam.
Am Saleh, mis mojoud?
Tahad. Intadar, ana tiou.
Shukran. Vais chercher la clé. On va monter là pour voir.
Ah ouais. Ah, magnifique. Ici, on a une vue sur toute la ville. Quelle splendeur, cette ville.
Vous voyez tous ces jardins jardins maraîchers qui sont généralement à côté des bosquets pour avoir l'eau des ablutions pour l'irrigation. Il y en avait à peu près des dizaines dans tout Sanaa. Il y en a de moins en moins, malheureusement. Et ça permettait une certaine autosuffisance pour la ville. Le marché compte à peu près une quarantaine de souks, hein, d'artisans et de commerçants. Un souk peut être une ruelle ou deux spécialisées. Ouais. Et vous voyez que c'est très, très bien distinct des quartiers d'habitation. Si ce n'est des petites tours, des tours de garde, vous voyez.
Ah oui, là au
qui,
milieu,
qui permettait finalement aux gardiens de veiller la nuit.
De veiller la nuit.
Et dans ce caravansérail là que vous voyez...
À gauche, là-bas.
Oui, ouais. Se trouve le cheikh de la nuit, qui est le gardien de...
Alors c'est quoi le cheikh de la nuit?
C'est le chef des gardes du souk la nuit, et qui a juridiction nocturne sur le souk, en fait. Et autrefois, par exemple, lorsqu'une boutique était cambriolée, il devait payer sur ses deniers... le prix du vol, enfin rembourser le
commerçant
qui a été...
Quoi, il faisait assurance. Il existe toujours ce cheikh de la nuit?
Il y en a toujours un, oui, cheikh de la nuit.
C'est son nom.
Cheikh al-Layl, en arabe, oui, cheikh de la nuit. Et on trouve, autrefois, il y avait un cheikh de la nuit qui était très célèbre, parce que durant la journée, il faisait le tour de tous les caravansérails, et il identifiait les personnes qui étaient venues durant la journée à Sanaa, et qui allaient dormir à Sanaa, pour justement... éventuellement même repérer les voleurs avant qu'ils commettent leur forfait, parce qu'il avait, on disait qu'il avait une intuition très très grande, quoi. Et personnage qui était très redouté, très respecté, Hamoud al-Qattar. Il avait donc, il a toujours sous ses ordres un corps de gardiens qui patrouille la nuit avec des bâtons.
Et on replonge dans les venelles du souk, complètement saoulé hein, par les odeurs, par les images, par les couleurs. Et c'est délicieux de ne pas comprendre, en fait. C'est pas mal de pas trop faire d'efforts et se laisser un petit peu comme ça aller. On pourrait très bien se balader, faudrait arriver à se balader les yeux fermés comme ça. On pourrait se repérer uniquement comme rétif de la Bretonne le racontait au sujet d'un aveugle dans Paris au XVIIIe siècle. Il faudrait voir se balader les yeux fermés. Ou alors le contraire, arriver à supprimer les odeurs et essayer de développer uniquement le regard pour piger les mille scènes qui se passent. C'est que nous bougeons dans un marché comme celui-là. Le corps est à l'extérieur de la boutique. Il n'y a pas véritablement de boutique, on n'est pas enfermé dans une boutique, on a une certaine liberté. C'est le commerçant qui lui est dans sa boutique. La plupart du temps, c'est vraiment des boîtes. Hein. On peut vraiment parler de coffret avec un type qui est là, qui est assis, accroupi à côté de ses étoffes, ses accessoires de cuisine, le gars là. Qui vend des cuvettes en plastique ou des gamelles et qui est en train de lire le Coran, par exemple. Il est sur un vieux livre, il est en train de lire son Coran. Eux ne bougent pas, ces hommes-là ne bougent pas, les commerçants ne bougent pas. À l'heure du 4, l'après-midi, ils bougent encore moins, si c'est possible. Ils bougent encore moins, entièrement absorbés par cette tâche de se remplir une joue, la joue gauche la plupart du temps, jusqu'à la faire gonfler, 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 comme si on avait avalé vraiment une balle de tennis, quoi. Et là, finalement, il y a beaucoup de calme dans toute cette effervescence. C'est nous qui nous plaisons à nous perdre dans ces rues.
Qu'est-ce qu'ils vendent ? Ils vendent des parfums, perfumes.
Yeah, une pharmacie, médecine, une have shop, une parfum, une incense, une cardamone, une chincha, have shop, une médecine.
Toutes les médecines. Là, on a la solution à tous les maux.
Oui, parce qu'en fait, les préparations médicinales traditionnelles sont faites dans le souk des parfumeurs apothicaires. Nous sommes en ce moment. C'est le souk des. Alors, on vend aussi des chandelles, hein, parce qu'il y a beaucoup de panne d'électricité en ce moment à Sana. Et aussi, on vend aussi de l'encens, de la myrrhe, et également de la pharmacopée traditionnelle, quoi. Notamment des préparations, par exemple, pour après l'accouchement, les femmes boivent le Karwat al-Wilada, qui est une préparation pour se relever de...
Des couches.
Des couches, oui. Et puis, toutes sortes de médecines sont vendues là.
Anwa' al-Bukhur, wa l'Afrah.
Tous les parfums qui sont utilisés pour les grandes occasions, telles que les mariages, les naissances, etc.
C'est pas les mêmes parfums.
Il y a des préparations spéciales. Donc, c'est un souk très important ici, malgré le fait qu'il y ait... peu de boutiques, mais en fait c'est un souk important parce que c'est un peu le...
Qu'est-ce qu'il nous montre?
C'est de la myrrhe, ça.
Il nous montre un mélange. Ça, c'est de la myrrhe.
Yes.
Qu'est-ce qui se vend le mieux en ce moment?
Surtout les préparations pour les relevailles.
Pour
les mélanges de parfums pour les mariages. Également pour la préparation des corps des défunts. Et les produits pharmaceutiques, mais traditionnels, la pharmacopée traditionnelle. Donc, c'est un souk toujours actif qui vend ses produits parce que c'est le seul souk de la République du Yémen pratiquement qui vend ses produits. Quoi.
Est-ce qu'il y a un... Est-ce que vous avez des parfums ou des produits pour attirer les femmes?
ويعني البو... الذي تجذب النساء يحبين عذر البخور.
Certains encens qui sont utilisés effectivement
pour attirer les femmes. Par exemple celui-là. Alors il voit une petite boîte bleue et jaune. Et c'est un petit parfum, une petite bouteille de parfum. Et voilà, on va sentir. Alors voilà, ça c'est radical pour attirer les femmes.
Les parfums pour les femmes qui vont se marier.
هو يستخدم عند زواجهن في ليلة العرس هو يبخروهن بمر علشان العين.
La nuit de noces, les femmes se parfument avec de la myrrhe pour éloigner le mauvais œil. Lorsqu'elles sortent de la maison pour rejoindre la maison de leur époux, ils cassent aussi des œufs pour également éloigner le mauvais œil et pour aussi attirer la fertilité. Entre ses pieds, ils cassent les œufs.
هذه من تقاليد اليمن يعني.
هذه تradition يمنيه. المارياج.
أخرى يعني عند دخولها بيت زوجها يذبح لها الكبش.
Lorsque la femme entre la maison du marié, ils égorgent aussi un animal.
وتطلع من فوق البندق الكبير الجن.
Ils mettent aussi un fusil sur le seuil pour qu'elle passe dessus.
Ah, les hommes et les armes ici, c'est terrible. Hein?
Mais quand même, la femme marche oui. Sur l'arme de l'homme pour éloigner le danger.
C'est-à-dire que le souk, c'est on échange des produits, mais aussi toute une culture, toute la culture passe par le souk.
C'est-à-dire qu'il y a de nombreux souks, le souk des parfumeurs apothicaires, le souk des raisins secs et des amandes, qui sont des souks complètement liés à la société traditionnelle, du fait qu'ils sont liés aux occasions. Tels que les mariages, les naissances, voilà. Les décès, où on a besoin des produits traditionnels ou des préparations traditionnelles. Donc c'est pour ça, c'est ce qui explique aussi la pérennité du souk. Pas seulement parce que les produits sont moins chers par rapport aux autres artères commerçantes, mais par le fait qu'on y trouve les produits qu'on ne trouve pas ailleurs et qui sont liés aux grandes occasions sociales.
Moi je suis très intrigué, il y a un type qui est assis là-bas, un vieux bonhomme, avec des anneaux d'acier aux pieds, aux chevilles, c'est quoi?
Alors ça, c'est un... d'une certaine façon, c'est un prisonnier en liberté, quoi. Puisqu'on lui a mis des fers aux pieds pour l'identifier comme fou, en général. Mais en même temps, on le met pas en prison. Comme il n'y a presque pas d'hôpitaux psychiatriques, c'est une façon traditionnelle d'emprisonner...
De quelqu'un.
Généralement, ce sont des personnes un peu dérangées mentalement.
يلا عفوك يلا يا من يا من عليك هيك التوكل والخلاف يا من لك الضعف فينا ثانية يا الله يا رحمة.
Est-ce que ces forgerons sont ceux qui forgent les fers des prisonniers et des aliénés qu'on peut parfois rencontrer dans le marché de Sanaa. Je sais pas. Il y a comme ça des exclusions étonnantes, bien sûr, comme ailleurs, notamment celles des Hardam, qui sont des parias, un peu comme les parias, les intouchables de l'Inde, et qui sont tenus à l'écart du marché, à l'écart de la cité. On continue cette balade dans le marché, les souks de Sanaa. Beaucoup de jambiyas et poignards sont partout en ce moment, plus que d'ordinaire, parce que on avance dans le Ramadan, et à la fin du Ramadan, lors de la rupture du jeûne, lorsqu'on a proche de la fête du sacrifice, alors il est de coutume, de règle, d'acheter un nouveau fourreau, une nouvelle ceinture, et quelquefois un autre poignard, une nouvelle Zambia, comme ça. C'est un signe, Franck Mermier vous l'a dit, de richesse, d'appartenance, d'identité yéménite, d'appartenance à une catégorie sociale bien précise. Mais c'est un signe extérieur aujourd'hui aussi important que un 4x4 flambant neuf ou une vidéo à la maison. C'est aussi intégré que ça, aussi important que ça aujourd'hui pour les yéménites. Alors, là, ces forgerons, ils sont quand même étonnants. Je vous disais qu'il y avait de moins en moins d'artisans dans le monde en général et dans ce souk, dans ces souks aussi. Mais là, c'est vraiment étonnant. C'est vraiment les joyeux vulcains, on pourrait les appeler. Ils sont accroupis dans des grottes, des petits ateliers comme ça, minuscules, avec une forge devant leur forge. Il y a un soufflet, évidemment. Et ces types, à longueur de journée, de vie dans cette chaleur épouvantable, évidemment, forge des pièces, des serrures, incroyablement compliquées, incroyablement habiles, des virtuoses de la forge, et qui chantent en travaillant, ou plus précisément, qui prient en travaillant.
Yalla, drop. Dans le ciseau.
400 riyals yéménites.
Ça, c'est un cadenas
yéménite.
Yéménite.
Complètement forgé.
Que tu pries sur toi, ô Mohamed.
On se souvient de Dieu.
Ya Hayya Gayoum, Ya Mujid al-Ma'doum.
Et c'est non, les noms de Dieu. Je te demande, ô toi le miséricordieux, la lumière.
Quand vous travaillez, comme ça, vous chantez ça en même temps.
Oui, quand je travaille, je chante ça. Ça, c'est pour coudre les couettes, pour coudre aussi les sièges, des mafrages. Tout est fait à la main ici. Tout est artisanal.
Là, il sort cette pièce de fer du foyer, elle est toute rouge, et il va taper, il va chanter.
الله يا من عليك كالعزر يا زيلك والجن والانس كلهم عابد لك يا الله والعبد عزي والاله والاله سوا لان حاصل وجد يتغلوا حرف الجد
maintenant c'est bon on peut le mettre dans le mur
تمام وهذا الثانيه
C'en est une autre.
Ya Allah, Allah inana, Allah ma yirdaik, ya ilahi, ya Allah, ya Allah inana, wa awinna.
Maintenant c'est bien. Ça c'est pour la porte. C'est pour la porte comme celle-là. Je vais faire l'autre côté, le deuxième côté maintenant. C'est bien?
Regardez. Ah, ça coupe, là. Oh! Non, j'ai pas besoin.
Il n'en a pas besoin.
Ben,
il le prend pour le musée.
Non, j'ai pas de musée.
Yallah belkhayk. Yallah belkhayk. Yallah afwak. Yallah ya man. Ya man alayka. Ika tawakkal. والخلاف يا من لقى الألضاف ألضاف فينا غالية يا الله يا رحمة صلى عليك الله عليك يا من سمايت
bientôt le musée pour les joyeux vulcains de Sanaa. C'est dommage de pas avoir l'usage d'une serrure forgée par ce forgeron, mais elle fait combien 5 kilos cette serrure. C'est dommage de pas avoir l'usage de ne plus avoir l'usage, voilà, mais la page tourne, la roue tourne, ils sont toujours là. Espérons le plus longtemps possible, il y a encore d'autres souks, celui des ferblantiers, par exemple, qui sont aussi hallucinants de savoir-faire et d'habileté dans ce marché de Sanaa. Là, on va dans le marché du café. Le café a été l'une des raisons du développement, l'un des grands cycles de développement du Yémen. Moka, c'est une ville du Yémen. C'est un port sur la mer Rouge, le Moka. C'est un mot qui se perd un peu chez nous, mais c'était un genre de café très très prestigieux à travers le monde. Il y a eu le cycle de l'encens et de la myrrhe, jadis, puis le cycle du café. Aujourd'hui, c'est plus le cycle du cat, dont on a parlé hier, qui assure le développement, enfin, on peut dire, de ce pays. Balade dans le souk du café.
Ah oui, c'est une cour du café. Il y en a trois à Sanaa qui réunit la production yéménite de café, qui a ensuite réexporté, notamment vers l'Arabie Saoudite.
Mais le café maintenant, c'est insignifiant.
Il y a effectivement, par rapport à l'âge d'or du commerce du café au XVIIIe siècle, c'est effectivement, ça s'est beaucoup réduit. Mais il y a encore une demande quand même pour le café yéménite. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que les yéménites boivent l'écorce de café en décoction.
C'est ça.
Donc ça, c'est vraiment la production consommée localement. Sinon, le café, en grande partie, est exporté.
Mais en fait, le développement du pays a été dû au café.
Le café a été un petit peu comme le pétrole pour l'Arabie Saoudite, d'une certaine façon, au XVIIe, XVIIIe siècle.
Et ça s'est fini comment ce...
Alors, malheureusement, si on peut dire, des commerçants hollandais sont venus à Moka, ont pris des plants de café et les ont implantés dans les Antilles hollandaises. Ensuite, les Français les ont transportés à l'île Bourbon et ont concurrencé ensuite le commerce du café yéménite.
Et donc, chute.
Chute radicale et pratiquement totale. Disons, dès le 19e siècle, la production de café est devenue presque marginale.
Là, c'est un endroit incroyable. C'est un moulin. Un moulin à huile. Et un énorme moulin à huile qui est animé par un chameau. Le chameau qui est devant nous, là, à l'intérieur de ce bâtiment, cette sorte de grotte, de caverne, là. Il y a ce garçon qui est couché, qui est le maître du lieu, et qui a de la luzerne, un genre de fourrage.
Je suis en train de donner à manger à mon dromadaire.
Sésame.
Je fais de l'huile de sésame ici.
Ah. Il est aveugle, votre chameau ?
Non, il n'est pas aveugle. Lorsqu'il fait marcher le moulin, oui, on lui couvre les yeux, mais il n'est pas aveugle.
Et pourquoi il faut lui couvrir les yeux ?
Pour qu'il n'ait pas la tête qui tourne.
Depuis combien de temps il fait ça ? Il fait ça toute sa vie ?
Ça fait un an et demi seulement qu'il fait ça.
Et il va le faire combien de temps ?
De 5 à 10 ans, ou peut-être pour toujours.
Et vous ?
Moi, ça fait 10 ou 15 ans seulement.
Depuis quand existe le moulin ?
Ça date de l'époque de mon grand-père.
Votre grand-père faisait déjà ça ?
Ah oui. Tous, toute la famille, mon grand-père, mon père, nous, c'est héréditaire chez nous.
Depuis combien de temps ? Depuis le prophète ?
Non, plus tard quand même. À l'époque de l'imam. L'imam Yahya. Il est en train de vendre un peu d'huile et il dit que ça coûte 400 riyals.
Le litre ?
Non, c'est la petite bouteille.
Ah, les petites bouteilles. Les petites bouteilles qui sont là, c'est de l'huile de sésame et ils le vendent là.
C'est très efficace comme médicament. Ça réchauffe la poitrine, c'est bon pour le rhume, pour les rhumatismes, pour les genoux. Et ça s'appelle salit musallat, c'est-à-dire il fait autorité contre toutes sortes de douleurs.
Ça c'est quoi ?
Ça sont les graines que nous mettons dans ce grand chaudron.
Non, je vous l'avais dit, nous ne saurons pas tout. Il faut rester encore quelques décennies, quelques siècles pour comprendre tout. Merci à Franck Mermier, Raya Sagar pour la traduction. Merci à Amine, merci à Abdallah. Franck Mermier, Le Cher de la Nuit, c'est un livre aux éditions Actes Sud, précisément sur ce marché de Sanaa. C'est Bruno Carpentier qui a réalisé cette émission modeste et géniale.
C'était une nouvelle diffusion du reportage de Daniel Mermet et Zoé Varier au Yémen. L'équipe de la Bassigi Suisse est Antoine Chao, Yann Chouquet, Pascal Pascariello et Christophe Imbert. Et le répondeur est le 01 56 40 37 37. À la technique aujourd'hui, Antoine Viossa, Olivier Arnay et Julien Chabassu. Et à ne pas manquer à partir de demain, vendredi 24 février à 20h30 jusqu'au 19 mars, au théâtre de l'Est parisien, Honneux, une pièce de Dominique Witowski. L'adresse du théâtre, c'est 159 avenue Gambetta, dans le 20e à Paris. Réclame.